Nous sommes venus ensemble encore ce soir et nous voulons répondre à cet appel du Seigneur Jésus qui, lui-même étant la parole, veut nous parler et à travers son modèle, veut nous amener à lui ressembler, à le suivre, à manifester ce qu'il a manifesté sur cette terre. Et pour cela, il nous a envoyé un consolateur, le Saint-Esprit, qui peut produire ce fruit dont les aspects modèlent nos vies, devraient modeler nos vies et nous rendre ainsi plus visibles pour un monde qui cherche la lumière. Oui, que cette patience, cette fidélité et la capacité à nous maîtriser dans les circonstances les plus compliquées, les plus inattendues, soit quelque chose que nous puissions vivre. Et nous te remercions, Dieu et Père, d'avoir mis au cœur de nos frères de nous présenter ces trois aspects. Et nous te demandons de les guider, de garder nos oreilles, nos cœurs, notre attention, pour recevoir ce que tu voudras nous dire par eux, par le moyen de ta parole. Et nous te remercions, Dieu et Père, par avance, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Alors, il y a quelques semaines, j'ai assisté à un concert d'instruments à cordes donné par des enfants, une centaine d'enfants de... Ce concert avait lieu dans un parc près du centre-ville de Pau et il réunissait des enfants de différentes écoles de musique de la ville. Alors il y avait des enfants du conservatoire, mais il y avait aussi des enfants de diverses écoles et en particulier une qui se trouve dans des quartiers populaires et qui offre gratuitement aux enfants des cours de violon, de violoncelle, d'alto. Voilà, et donc ce concert avait lieu et c'était très très beau. Et je voyais en même temps le regard des parents qui regardaient ces enfants jouer de ces instruments et je voyais qu'ils étaient tous très souriants. Il y avait, on lisait la satisfaction sur leur visage. Et je pense que pour autant, il y avait eu sans doute beaucoup d'efforts, il y a eu du sang et des larmes avant d'arriver à ce résultat. Parce que vous savez, apprendre ces instruments avec des enfants au début, ça demande beaucoup de volonté, de persévérance. Mais le résultat était vraiment magnifique. Et je me suis dit que bien, pour le Seigneur, c'est un peu pareil. Il y a ces fruits de l'esprit un peu difficiles à réaliser, exigeants, que sont donc la patience, la fidélité et la maîtrise de soi. Mais si vraiment nous les manifestons, comme on a chanté là, dans nos vies, et je pense que ça sera une grande satisfaction pour lui. Alors c'est pour ça que ce soir, on va essayer de jouer les profs de musique avec mes deux frères et de vous rappeler un peu quelles sont ces trois belles vertus chrétiennes, la patience, la fidélité et la maîtrise de soi. Donc je vais donner la parole pour commencer à Lucien qui va nous parler de la patience.
Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler pendant 20 minutes.
Un peu plus près, Lucien.
Essayons, 20 minutes, de la patience. Au travers de 7 chapitres, 7 petits chapitres inégaux d'ailleurs. Le premier chapitre, introduction. On m'a donné le choix entre la patience et la maîtrise de soi. Deux choses aussi difficiles à réaliser l'une que l'autre. Finalement, j'ai choisi la patience. Et pourtant, je dois confesser que je ne suis pas particulièrement patient. Je ne risque pas d'avoir la patience du photographe animalier qui est capable de rester 2 ou 3 heures perché sur un arbre pour attendre l'animal sauvage. Je n'ai pas non plus la patience du pêcheur à la ligne qui est capable de rester toute une matinée pour attendre le poisson. Mais ces deux, en fait, c'est des gens, ils sont patients parce qu'ils sont passionnés. L'un veut faire une photo exceptionnelle qui va éblouir toute la famille et qui va peut-être vendre sur Internet. L'autre, il veut sortir un beau brochet pour faire l'admiration de toute la famille et la régaler. Mais ces deux, je voudrais bien les voir dans une autre situation. Par exemple, nous sommes en plein hiver, il fait vraiment pas chaud sur le quai de la gare, ils attendent patiemment le TGV. Mais voilà que la SNCF annonce 20 minutes de retard. Et là, je voudrais les observer. Peut-être qu'on aurait des surprises. Ça fait 3 mois que je pense à ce sujet, et je dirais, comme Paul, j'y pense jour et nuit, et surtout la nuit, et j'ai toujours pas résolu cette question, à savoir s'il y a des gens naturellement patients. Parce que, évidemment, pour répondre à cette question, on pourrait s'aventurer sur les sentiers fumeux de la psychanalyse ou de la psychologie et dire que probablement les flegmatiques sont plus patients que les sanguins et les colériques. Mais je ne veux pas m'aventurer sur ce chemin parce que le titre, c'est, il ne faut pas que je l'oublie, le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le fruit que le Saint-Esprit développe. Le fruit, évidemment, c'est une métaphore. En langage décrypté, c'est un plaisir. Comme nous le voyons, par exemple, en Apocalypse 2, quand le chef suprême de l'Église dit à Éphèse, qui souffre, je connais ta patience, tu as eu patience, et tu as souffert pour mon nom, et du plaisir pour le chef de l'Église, et évidemment, pour ceux aussi qui nous entourent. Deuxième paragraphe. Définition. Là, je me tourne vers le latin patientia, qui veut dire souffrir, endurer. Et j'ai noté deux définitions. Aptitude d'une personne à persévérer dans une activité de longue haleine sans se décourager, synonyme sérénité et sang-froid. Aptitude d'une personne à se maîtriser face à une attente et à rester calme dans une situation de tension, de difficulté. Troisième chapitre, des exemples, positifs et négatifs. D'abord négatif, celui de Saül. Le prophète Samuel a dit à Saül de l'attendre pendant 7 jours, qu'il viendrait offrir le sacrifice. Saül attend 6 jours, un peu plus, mais pas 7 jours. Et il dit qu'il se fait violence et offre le sacrifice à la place de Samuel. Samuel arrive et lui fait un reproche cinglant. Tu as agi follement. Ton royaume ne subsistera pas. Saül a payé très cher son impatience. Deuxième exemple, à la fois positif et négatif, celui-là, celui de Abraham et Sarah. Au chapitre 12 de la Genèse, Dieu promet 3 choses à Abraham et à Sarah. Premièrement, une descendance, une semence, descendance, c'est le même mot en hébreu, un enfant. Deuxièmement, un pays, le pays de Canaan, où ils vont séjourner nomades, forains, étrangers pendant 3 siècles et qui vont posséder ensuite. Et la troisième chose, que cette bénédiction d'Abraham va être pour toutes les nations dont nous faisons partie. Au bout de 10 ans, Sarah est à bout de patience. À bout de patience, c'est une expression qu'on trouve dans Job 21. Et en plus, elle est irritée contre Dieu. Dieu m'a empêché d'avoir des enfants. Et elle imagine un moyen qui était courant à l'époque, qu'on appelle maintenant une mère porteuse. Certainement, son digne de mari va lui dire, écoute chérie, je connais Dieu, il m'a parlé, il est fidèle, il faut qu'on patiente encore, qu'on renouvelle notre foi en lui. Il ne peut pas nous laisser tomber. La bouche du grand patriarche reste fermée. Il va falloir qu'ils attendent 25 ans, un quart de siècle, pour avoir cet enfant de la promesse. Mais ce qui est beau, c'est qu'en Hébreu 6, il est dit, par la foi et par la patience, ils obtinrent ce qui avait été promis. Autre exemple, le laboureur, dont vous avez un tableau ici. C'est Jacques qui parle du laboureur et qui dit « Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première saison qui fait germer le grain et de la dernière saison qui le fait grossir. » Si vous pénétriez dans notre foyer au mois d'octobre, chaque mois d'octobre, vous entendriez ce petit bijou de poème d'Henri Rossier, Le laboureur à mes fils. Octobre à peine inaugure les mois pluvieux ou glacés, que dès le petit jour sans trêve dans la plaine, le laboureur s'acharne au sillon commencé. Courbé de ses deux mains, conduisant la charrue, il suit péniblement les grands bœufs accouplés et songe. Devant lui s'étale fort et dru l'opulente moisson des seigles et des blés. L'immense tapis fauve a des frissons superbes. Des champs au gai soleil s'élèvent dans l'azur. Les cieux et les chars fléchissent sous le fardeau des gerbes et les vastes greniers regorgent de fruits mûrs. Henri Rossier. Et c'est ainsi que le divin laboureur trace péniblement ses sillons dans cette terre aride de Samarie. Et il a suffi d'un grain qui a germé, cette femme sans nom, pour que le divin laboureur dise à ses disciples, « Levez vos têtes et voyez, les campagnes sont déjà blanches pour la moisson. » J'ai toujours été surpris de ce verset de l'Évangile qui dit « Il y a peu d'ouvriers dans sa moisson, supplier le Seigneur qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Il aurait été plus logique de dire « pousse des semeurs dans son champ ». Non, non, des moissonneurs. Quand on évangélise, on sème, évidemment. Mais il faut avoir la foi du laboureur et du semeur, c'est-à-dire voir plus loin la moisson, c'est-à-dire le rassemblement des fruits pour Dieu. Ça serait absolument stupide de labourer et de semer si ce n'était pas dans le but suprême de la moisson. C'est la foi du laboureur. Le deuxième exemple de Jacques, c'est les prophètes. Prenez comme exemple le prophète, la patience des prophètes qui ont souffert. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont souffert. Il faut penser à Jérémie, Ésaïe aussi. Ils ont souffert parce que le prophète, il voit un besoin dans le peuple de Dieu et répond par la parole, par l'exhortation. Et c'est pas un chant agréable, comme dit un prophète. Ça peut être un peu agressif pour la conscience. Il parle à la conscience, il percute la conscience, le prophète. Et tous les prophètes ont souffert, par exemple, même de la part de rois pieux, je pense à Asa. Asa, il s'était appuyé sur l'Éternel, et puis à la fin de sa vie, il s'est appuyé sur le roi de Syrie. Et il y a un prophète qui lui dit, mais quand tu t'appuyais sur l'Éternel, il t'a délivré, mais maintenant tu t'appuies sur le roi de Syrie. Et Asa a jeté le prophète en prison. Et c'est le sens du don de prophète maintenant dans l'Église n'a pas tout à fait la même signification, mais le prophète peut souffrir aussi, parce que s'il s'adresse à un auditoire, s'il percute la conscience, il parle aussi au cœur, eh bien, on reçoit l'exhortation, on la supporte, comme dit Paul, ou pas. Et si on ne la supporte pas, le serviteur va souffrir. Troisième exemple, la patience de Job et la fin du Seigneur. Si on lit le livre de Job, on ne voit pas tellement sa patience, je ne sais pas, mais Dieu l'a discerné dans la souffrance, dans cette longue épreuve. Et ne disons pas que nous n'avons pas le droit de dire que Dieu ne s'occupe pas de notre épreuve. Il a fait écrire un livre entier, 42 chapitres, pour l'épreuve d'un seul homme. C'est pas rien. Quatrième rubrique, chapitre, ses alliés. La patience n'est pas seule, elle a des alliés. On a vu déjà la foi. Par la foi et par la patience, ils ont obtenu ce qui avait été promis. On a aussi, il y a plusieurs passages, mais je n'ai pas le temps, l'espérance. 1 Thessaloniciens 3, comment c'est dit ? Œuvre de foi, travail d'amour, patience, d'espérance. Ensuite, l'amour, les trois vertus cardinales ou théologales. L'amour, ce petit verset, ce petit bijou de verset que nous devons méditer en 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Ensuite, la constance. Ce verset étonnant de Colossiens 3. Fortifié pour des actions d'éclat, pas du tout. Fortifié pour toute patience et constance avec joie. La piété. Vous vous souvenez de ces 9 maillons qui correspondent aussi en parallèle avec les 9 grains de la grappe du fruit de l'esprit ? 9 maillons, joignez à votre foi la vertu et à la patience, la piété. La piété, qui est comme nos deux pieds, composée de deux choses, la crainte de Dieu, la confiance en Dieu. Vous rencontrerez jamais quelqu'un qui a une grande confiance en Dieu et qui ne craint pas de lui déplaire. Sinon, on boite, on claudique. La douceur d'esprit. 1 Timothée 6, Paul dit, il y a des choses à fuir et d'autres à poursuivre. Et entre autres, poursuit la patience et la douceur d'esprit. Cinquièmement, les sphères d'action. Il n'a pas dû chercher longtemps celui qui a dit que et a désigné les malades, les souffrants, quand vous allez chez le médecin, quand vous êtes entre les mains du chirurgien, comment on l'appelle ? Tout simplement le patient. Il n'a pas cherché longtemps. Ce n'est pas difficile. Il en faut de la patience quand on est étendu sur un lit de maladie ou l'hôpital. Le couple, il nous faut de la patience dans le couple, l'un vers l'autre. Il faut de la patience dans la famille, de la mère, du père, avant la grossesse, quand les enfants sont petits, jusqu'à ce qu'ils s'envolent du nid. Et je ne parle pas des mères et des pères qui ont un enfant infirme. Ici, dans l'Assemblée au Bru, il y avait une sœur qui, jusqu'à plus de 75 ans, s'est levée 2 ou 3 fois par nuit pour tourner sa fille infirme. Je crois qu'il y aura une récompense spéciale pour ces mères-là au ciel. Dans le voisinage, entre voisins, il nous faut aussi exercer la patience. Au travail, un professeur d'école qui doit inculquer, qui doit apprendre à lire à ses élèves, ça demande beaucoup de patience aussi. Mais la patience, ce n'est pas de la faiblesse. Il ne faut pas confondre les choses. D'ailleurs, des mères et des pères, c'est pareil. Patience de l'ouvrier par rapport à son patron qui est difficile. Patience de l'agriculteur pour toutes les tâches pour attendre la récolte. Et il n'y a pas de raccourci là. On est dans un monde d'instantanéité, mais la végétation, elle n'a pas bougé. Hein. Il faut toujours 6 mois de la floraison pour que vous puissiez croquer la pomme. Dans l'église locale, Jacques 5, usez de patience, frères, 2 ou 3 dimanches, jusqu'à la venue du Seigneur. Dans les services et les ministères. De 1 Corinthiens 6, ne donnant aucun scandale en rien, afin que le service ne soit pas blâmé, mais en toute chose nous recommandant, comme serviteurs de Dieu, par une grande patience, dans les tribulations, dans les nécessités, dans les détresses, dans les coups, etc. Mais ce qui est en tête de la recommandation, de la lettre de recommandation de Paul, c'est une grande patience. Et un peu plus loin aussi, au chapitre 12, certainement les signes d'un apôtre ont été opérés au milieu de vous par toute patience, par des signes, des prodiges, des miracles. Mais là encore, la patience est en tête. C'est indispensable pour tout service dans la durée. Sixièmement, dans la patience, dans la tribulation, persévérant dans la prière. Alors ça, c'est un chapitre sensible. Merci. Je cite 2 versets qui sont pratiquement identiques sous la plume de Paul et sous la plume de Jacques. Romains 5, la tribulation produit la patience. La patience, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Et Jacques 1, l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce n'est pas exactement le croyant qui est éprouvé, c'est sa foi. Vous allez me dire, c'est à peu près kiff-kiff. Non, non, il faut faire attention, l'épreuve de la foi. C'est Jacques et Pierre qui en parlent plusieurs fois. Et parce que Satan attaque le noyau central de notre vie chrétienne, c'est la foi. Paul avait peur que les Corinthiens soient ébranlés dans leur foi. Et Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et nous avons connu des moments dans notre vie où cet ébranlement de la foi. Et c'est redoutable. Patient dans la tribulation. Alors, les lecteurs habituels de la Bible ne sont pas surpris de ce mot « tribulation ». Le Seigneur en parle dans l'Évangile, la grande tribulation. Mais en fait, et dans les Épîtres, il en parlait plusieurs fois, mais en fait, est-ce que nous savons d'où vient ce mot « tribulation » ? Il vient du latin « tribulum », qui désigne une herse à battre, un traîneau à battre. Il en est parlé, il y a une allusion dans Ésaïe 29, un traîneau à tranchant. Et il y a déjà quelques années que je voulais faire un tribulum, et c'était l'occasion. Vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Bon, il y a un tribulum. Alors voilà, c'est un traîneau. Un traîneau qui a été, ça a été utilisé pendant 20 siècles dans tout le Moyen-Orient, au Maghreb, probablement en Algérie, dans certaines régions de France aussi. Chez nous, on battait au fléau. Dans l'ouest de la France, chez mes grands-parents, ils battaient au rouleau tronc conique tiré par un cheval. Et là, c'était tiré par un âne. Il y a encore quelques décennies, cet appareil était utilisé en Syrie, en Turquie et en Tunisie. Seulement, c'est rudimentaire, mais très efficace. Alors, le hic de la question, c'est de l'appareil, c'est ceci. Il y a des éclats. Je ne vous conseille pas de passer la main, parce que c'est tranchant. Certains éclats sont tranchants comme un rasoir. Là, c'est des éclats de basalte. Dans les régions où il y avait des silex, c'était des éclats de silex. Là, il y en avait environ 200. Dans les grands, de 1,20 m de large et sur 1,50 m de long, il y en a 3 000. Et donc, l'agriculteur, il mettait ses gerbes en cercle, dans une aire, surchauffée par le soleil d'Orient, et il tournait avec l'âne, il était dessus, et ses tranches, ses éclats lacéraient les épis, et en tous sens, et faisait éclater les épis et séparer les épis du bon grain. C'est une action violente. Et moi, ça m'a encouragé parce que quand l'agriculteur veut faire ça, cette action violente, il ne veut pas détruire sa récolte. Au contraire, il veut en exprimer le bon grain. Et quand Dieu nous fait passer par les épreuves de la vie, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour exprimer le bon grain quelque part. Patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. S'il y a des personnes ici qui ont des infirmités, une maladie de longue haleine, un traitement lourd, qui doivent subir des examens difficiles, voire une intervention chirurgicale, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. S'il y a des personnes ici qui traversent un deuil cruel et sentent la solitude, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. S'il y a des personnes qui connaissent des cataclysmes, une maison qui brûle, ou des locaux professionnels qui brûlent, le paysan qui a des pertes de bétail, il pleut trop, c'est la sécheresse, il y a la grêle sur le jardin, des épidémies, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. S'il y a des personnes qui sont dans la difficulté financière, qui ont des fins de mois difficiles, qui sont au chômage, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. S'il y a des jeunes qui ont raté un examen important, qui ont raté le permis de conduire plusieurs fois, qui connaissent une déception sentimentale, qui souffrent du célibat, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. S'il y a des parents qui ont un enfant qui va dans une mauvaise voie, s'il y a des grands-parents qui voient un petit-fils ou une petite-fille se mettre en concubinage, voient qu'ils savent qu'il n'est pas la bénédiction du Seigneur, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, s'il y a des frères et des sœurs qui ont des difficultés relationnelles entre conjoints, s'il y a des frères et sœurs qui connaissent des difficultés relationnelles dans l'Église, qui endommagent, qui menacent la paix de l'Église locale, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, s'il y a des serviteurs de Dieu qui connaissent, qui subissent des injustices, la médisance, voire la calomnie, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. S'il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui connaissent, en témoignant dans le monde, qui connaissent l'opprobre, les moqueries des gens, des insultes, l'indifférence, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Et je n'oublie pas 150 millions de chrétiens qui souffrent de la persécution en leur chair et en leur esprit. Je n'oublie pas qu'il y a environ 5 000 chrétiens qui meurent chaque année, des pasteurs, qui laissent des veuves dans le chagrin et le dénuement et la ségrégation. Je n'oublie pas, à l'heure où je parle, qu'il y a 5 000 chrétiens dans les prisons. Je n'oublie pas les chrétiens coréens qui enterrent leur Bible et le soir, ils la déterrent et ils lisent 2 heures et ils la réenterrent jusqu'au lendemain pour la lire de nouveau. C'est le pays où il y a le plus grand nombre de Bibles enterrées. J'arrive à la fin. Le grand modèle dans les personnes divines. En Dieu. Paul interpelle le moraliste en Romains 2 et lui dit: méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience? Ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Au chapitre 15, Dieu est appelé le Dieu de patience et de consolation. Et puis, le grand verset de 1 Pierre 3, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, alors que l'arche se construisait. Dieu voyait cette humanité antidéluvienne plongée dans la violence et la corruption généralisée. Et je ne crois pas du tout, mais pas du tout, à un Dieu impassible dans son ciel devant la misère des hommes. Je crois que Dieu est capable d'émotions comme nous. Il y a 4 grands passages dans l'Ancien Testament qui montre cela. Et ça, c'est le premier, ça. Quand il voit cette corruption, cette violence, il s'en affligea dans son cœur, comme des parents s'affligent dans son cœur si des enfants se dévoient. Il souffre, Dieu. Patientia. Souffrance. Mais Dieu patiente, 120 ans. Et ça sera le jugement. Mais Dieu n'exerce jamais son jugement sans offrir un moyen de salut. Et le moyen de salut, c'était l'arche. Il fallait rentrer dans l'arche. Et aujourd'hui, C'est pareil. Le jugement de Dieu est suspendu sur ce monde. Ça ne va pas toujours durer. Dieu est patient, ne voulant que qu'un périsse. C'est Pierre qui le dit aussi. Adolphe Monod, dans une prédication remarquable qui est intitulée « Trop tard », dit que le jugement de Dieu est sa miséricorde et sa patience épuisée. Il ne va pas juger avant. Il offre un moyen de salut aujourd'hui. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. C'est à prendre ou à laisser. En Jésus, la patience en Jésus. 2 Thessaloniciens 3, Paul dit que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. Apocalypse 3, à l'église de Philadelphie, il dit « Tu as gardé la parole de ma patience. » Et je termine par ce beau verset du psaume 40. Cette parole prophétique que le Seigneur Jésus prononce après sa résurrection. « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et s'est penché vers moi, et il a entendu mon cri. Il m'a fait monter hors du puits de la destruction, hors d'un bourbier fangeux. Il a établi mes pieds sur un roc, le roc de la résurrection, et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. » Toute proportion gardée. Je dis bien, je répète, toute proportion gardée. Il y a eu des périodes dans notre vie où nous étions au fond du trou, de la dépression, de la désespérance. Et quand on était là, on pensait ne jamais en sortir. Les mois ont passé. Les années ont passé. Et maintenant, nous pouvons dire avec notre maître, peut-être timidement, peut-être à voix basse, « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et s'est penché vers moi, et il a entendu mon cri, et m'a fait monter de ce trou de souffrance. » S'il y a une personne ici, ou plusieurs frères et sœurs, vous qui écoutez l'enregistrement, si vous êtes au fond du trou en ce moment, un trou de dépression, de découragement, de circonstances complexes dont on croit ne pas pouvoir sortir, nous vous disons de la part de Dieu, attendez-vous patiemment à Dieu. Il se penche vers vous, il entend votre cri et selon sa sainte volonté, sa sagesse, qui vous fera un jour monter de ce trou de dépression et de souffrance. Pour sa gloire et pour votre bénédiction. Que Dieu bénisse sa parole et ses quelques réflexions sur ce sujet de la patience et nous aide à le réaliser par la puissance de l'Esprit.